שיהיה רפואה שלמה. יופי. יופי, bien les amis, nous repartons dans notre étude de Perek Chelek, c'est-à-dire les Agadot du dernier chapitre de Maseret Sanhedrin, qui nous parle du Olam Haba, Triat HaMetim et toute cette sorte de choses. Alors, juste avant de commencer, je tiens à faire une rectification par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière. Parce qu'en réécoutant la fin du cours de la semaine dernière pour être sûr où est-ce qu'on s'était arrêté, je me suis rendu compte que j'avais fait deux erreurs. C'était à la fin du cours et donc j'imagine que ça devait être la précipitation, je ne sais pas. Mais d'abord, je n'ai pas fait attention, mais j'ai cité, lorsque j'ai lu le texte de la Gemara, j'ai parlé de Rabbi Eliezer, alors que en fait, tous les Ma'amarim qu'on a cités la semaine dernière, c'était ceux de Rabbi Elazar. Alors vous allez me dire, oh, ça va, ça va, ça ressemble. Mais quand même, je pense que c'est important de dire les choses. Et la deuxième chose, c'est que la dernière allusion que Rabbi Elazar nous a enseignée, c'est que celui qui va mettre du pain sur sa table avec d'autres denrées, il est Keilu Oved Avodah Zara. Et on a dit qu'il y avait une différence entre quelqu'un qui mettrait des restes de pain et quelqu'un qui mettrait un pain en entier. Et j'ai pas bien expliqué, même moi je me suis pas compris quand j'ai réécouté. Là-bas, techniquement, ça veut tout simplement dire celui qui veut pas mettre des choses sur sa table, ça veut dire qu'il pense pas aux possibles invités qui pourraient se présenter à lui et qui voudraient avoir à manger. Donc la personne qui met pas à manger sur sa table, qui ne laisse pas pour les autres, eh bien c'est un égoïste, évidemment. Et donc cette notion du pain, eh bien c'est de dire, non mais attention, si, mais avec les restes du manger ou le manger qu'il met sur la table pour les autres, il met des restes de pain, tout va bien. Mais s'il met un pain en entier, Zekeilu, qu'il est en train de faire un des minagim de la Avodah Zara de l'époque, c'était de faire un korban, si tu veux, au dieu de la fortune et du mazal. Et c'est comme ça qu'on faisait, on mettait un pain entier sur la table après qu'on ait mangé. Donc, c'est pour ça que ça s'est mentionné en sorte Keilu Oved Avodah Zara. Voilà, je vais simplement rappeler ça pour que ce soit bien clair. Et maintenant, nous pouvons retourner donc dans notre étude. Nous sommes toujours dans le traité de Sanhedrin, page 92, au verso. Daf Tzadik Bet Amoud Bet. Alors allons-y. C'est vers la fin de la page pour ceux qui ont les éditions du Chas Vilna Ragil. Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Shaya. Non, Amar Rabbi Yashia. Ma'edirtiv, She'ol ve'otzer racham, Eretz lo sav'a maim. Le verset de Michelet, qu'il y a une comparaison à faire entre She'ol, c'est-à-dire la tombe, et racham, c'est-à-dire la matrice, l'utérus d'une femme. Qui ressemblerait à Eretz lo sav'a maim. C'est-à-dire que de la même façon, le kever, la tombe, est celui qui est otzer racham, c'est-à-dire une matrice qui n'arrive pas à avoir des enfants, ou alors du moins qui n'a pas eu d'enfants, eh bien, elle est comme une terre lo sav'a maim, qui n'a pas reçu d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de nous dire ? Ma'ama sipur. Eh bien, on nous dit « Omar evechi ma'inyan she'ol etzel racham » Quel rapport entre le kever, entre la tombe et la matrice ?« Ela lomar lecha ma racham machnisu motzi af she'ol machnisu motzi » De la même façon que le racham, le rechem, eh bien, il fait rentrer et il fait sortir, la semence de l'homme rentre en elle et finalement, eh bien, cette matrice, elle va au bout de 9 mois sortir la vie. Eh bien, de la même façon, le kever, il fait rentrer plein de monde dedans, à savoir bah, les différents morts, mais aussi ils vont revenir, ils vont ressortir dans ce qu'on appelle triat ametim. Ve'alot varim kalvachomer. Uma rechem shemachnisim bo bechashai motziim mimeno bekole kolot. Enfin, kalvachomer, on dit, regarde, la matrice utérus. Quand on fait rentrer la semence de l'homme, c'est bechashai. C'est Betzniout dans la chambre, entre lui et elle. Aval, quand le bébé il sort, Zekolé Kolot, ça pleure dans tous les sens, ça crie de joie, de délivrance, et la sage-femme qui dit « Oh, comme il est beau !» Eh bien, si ça se passe comme ça pour la naissance, eh bien, Eino Eza Sheol Machnissim Bo Bekolot, Eino Din Shimotsim Imeno Bekole Kolot. La tombe, quand on met la personne qui est décédée dans sa tombe, Yesh Male Kolot. Parce que bah, les gens sont tristes et ils pleurent et tout ça. Donc, Kalva Chomer, que quand on va le ressortir, Triatametim, il y aura encore plus de Kole Kolot, de Simcha. Mikan Tshuva La Omrim En Techiatametim Mina Torah. Donc ici, en fait, on est en train de voir, on a déjà parlé souvent de Triat HaMetim, mais maintenant, on va parler d'une Triat HaMetim très particulière, la Triat HaMetim idéale, à savoir celle des Tzadikim. C'est ça qu'il va falloir essayer de comprendre. Triat HaMetim, qu'est-ce qu'on sait vraiment de Triat HaMetim? Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on sait de Triat HaMetim? Est-ce qu'on sait beaucoup ou peu de ce qui va se passer après la résurrection des morts ou pendant la résurrection des morts? Tshuva, lo yodim kloum. Lo yodim shum davar de la kloum. C'est-à-dire, il y a plein de rabbins qui ont essayé de donner des avis. Mais Begadol, on ne sait pas. Même Rabbeinu Saadia Gaon ira jusqu'à poser les questions sans donner de réponse. Mais la personne qui vient, qui revient, elle revient à quel âge? Et si elle était mariée plusieurs fois, elle revient avec quelle femme? Et c'est-à-dire, on ne sait pas. Et en fait, et c'est là qu'on voit la corrélation encore entre la grossesse et la personne qui est dans la tombe, eh bien, on peut dire que la conception qu'on a, nous, de Triat HaMetim aujourd'hui, ressemble au concept qu'ont des fœtus dans le ventre de leur mère sur la vie après la naissance. Imaginez-vous une discussion, le Rav Shapki avait l'habitude de donner cet exemple, il dit, imaginez-vous la discussion de deux fœtus jumeaux qui sont dans le ventre de leur mère et qui discutent. Il y en a un qui dit à l'autre, « Ah, je suis pressé de sortir !» Et l'autre, il dit, « Mais ça va pas ! Non, mais t'es pas bien dans ta tête ! Arrête, n'oublie pas que si on sort de là, on meurt !» Je dis, « Comment ça, on meurt ?» Ben oui. Regarde, dehors, j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de liquide amniotique. Donc ça veut dire qu'on va se cogner contre chaque chose du monde. On va mourir. En plus, dehors, il n'y a pas de température constante de 37 degrés. J'ai même entendu dire que des fois, à Jérusalem, il fait zéro. On va geler. Et puis, j'ai entendu dire que quand on sort, on nous coupe le cordon. Ça veut dire qu'on va mourir de faim. Et puis la preuve que ce que je te dis est vrai, c'est que toutes les personnes qui sont parties par le trou là-bas noir en bas, là, dans là, ils sont jamais revenues. Donc c'est bien la preuve que, voilà. Alors qu'en vérité, lorsque le bébé sort du ventre de sa mère, il s'ouvre à un monde encore plus grand, encore plus plein de vie. Mais il n'en sait rien tant qu'il est dans le ventre de sa mère. Eh bien c'est pareil pour Triat HaMetim. On a l'impression d'être plein de vie ici. Eh bien, le monde qui va s'ouvrir à nous, Betriat Hametim, c'est Arbe, 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 Yoter, Gadol. Maintenant qu'on a ouvert cette introduction, alors allons-y. Tana de Ve'eliyahu. Oui.
Là, on est obligé de parler de la
chambre au Carlebar. Ah ben, oui. laquelle tu veux?
Parce qu'il paraît que si le vendredi soir, on a vraiment chanté tous les nigunim avec beaucoup de kavana et qu'on était vraiment, vraiment, c'est comme ça qu'on nous accueille. Au moment où, à 120 ans, on s'en va, avec les mêmes nigunim, avec la même simcha, et ainsi de suite. Et j'imagine qu'après, comme tu dis, on a accès à un monde, au monde du Triat HaMetim encore plus grand. Alors là, j'ose même pas imaginer ce que seront les nigunim.
Et qu'est-ce qu'on fait avec un juif marocain qui va pas à Carlibar, mais qui va au Rif? Qu'est-ce qu'on fait?
Je sais pas, c'est une équation qui est pas résolue.
C'est ça, c'est compliqué. Tana de Ve'eliyahu. Tana de Ve'eliyahu. Tana de Ve'eliyahu, c'est une phrase qu'on entend souvent. Ça veut dire littéralement, on a enseigné dans le Beit HaMidrash de Eliyahu. Mais deux secondes. Eliyahu Hanavi, il avait un Beit HaMidrash. Eliyahu Hanavi, c'est un Tana. Eliyahu, c'est quelqu'un qui va être dans la lignée des Tanaïm. Pas du tout. Eliyahu, il vit bien avant les Tanaïm. Tana de Ve'eliyahu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dès qu'on dit Tana de Ve'eliyahu, il y en a plein des phrases du Talmud où on précède en disant Tana de Ve'eliyahu. Tshuva, Tana Deve Eliaou, c'est lorsqu'il y a plusieurs Chachamim qui ont parlé, mais qu'on n'est pas capable de mettre le doigt pour dire qui a vraiment donné l'enseignement. Lorsqu'on est arrivé à une situation où on n'arrive pas à dire qui est l'enseignant, ça veut dire que quelque part, c'est Tana Deve Eliaou. OK? Et donc ici, on nous dit Tana Deve Eliaou. Tzadikim she'atid HaKadosh Baruch Hu le'achayotam einam chozrim le'afaran she'ne'emar v'haya nish'ar b'tzion v'anotar b'Yerushalayim kadosh yamer lo kol ha'katuv le'chayim b'Yerushalayim. Ça, c'est un verset de Yishayahu au chapitre 4. Et le Talmud nous dit ma kadosh le'olam kayam af hem le'olam kayamim. Et là, il va falloir qu'on essaye de comprendre de quoi on parle. On parle ici de Triat HaMetim shel HaTzadikim. C'est quoi la Triat HaMetim pour les Tzadikim? Il y a une grande machloket entre le Rambam et les Mekoubalim quant à la question du corps de Triat HaMetim. Est-ce que le corps a toujours un rôle à jouer de Triat HaMetim ou chez l'eau? C'est-à-dire, pour le Rambam, eh bien, les tzadikim, qui vont revenir, ils vont revenir pour une vie très sympathique, mais ils refiniront par mourir. Lama. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est pas possible qu'il y ait le corps. Or, Triat HaMetim, on a vu dans la Gemara que c'est bagouf. Donc il dit, vu que le corps qui fait écran au dévoilement de Dieu, il ne peut pas rester éternellement, c'est-à-dire que s'il y a Triat HaMetim avec le corps, eh bien, il y aura de nouveau Mavet pour qu'il soit enfin débarrassé du corps. Alors que le Ramban, lui, dit Mapitom, c'est le contraire, la résurrection avec le corps qui va rester pour l'éternité. Asma Koré, qui a raison? Besofo Shel Davar, le Ra'avad pose la question sur le Rambam. Il dit, mais enfin Rambam, si tu me dis que l'idéal c'est de ne pas avoir de cos, c'est de ne pas avoir de corps, je m'embrouille parce que je sais déjà ce que je vais vous dire. Le Ra'avad te dit, monsieur Rambam, si tu me dis que l'idéal c'est de ne pas avoir de corps, moi je veux bien. Aval, à ce moment-là, le machal du Midrash nous parle de la Seouda que HaKadosh Baruch Hu prépare pour les Tzadikim l'Atid Lavo. Et dans cette Seouda, Yesh Kos Shel Beracha. Nous dit le Ra'avad, si tu dis qu'il n'y a pas de corps, Lama Yesh Kos Shel Beracha. En d'autres termes, on a besoin de la résurrection, mais dans ce monde, pour pouvoir l'élever. En d'autres termes, la Triat HaMetim des Tzadikim, elle n'a pas seulement une dimension de individuellement, moi je kiffe, je reviens, mais elle a une dimension tout simplement de Tikkun Olam Malchut Shaddai. Maintenant que je suis revenu, je vais pouvoir dévoiler à Kadosh Baruch Hu sans écran, avec Olam Hazeh. C'est, si vous voulez, ce que l'Admour Hazaken expliquera dans le Tanya au chapitre 10, dans lequel il explique que le tzaddik arrive à complètement faire de ses alliés tous les écrans qu'il y avait dans ce monde. Ce sont des alliés pour dévoiler à Kadosh Baruch Hu. OK? Beseder. Maintenant, ici on nous a dit, je reprends le verset de Yishayahu. Le verset de Yishayahu nous a dit Tzadikim she'atidim HaKadosh Baruch Hu l'achayotam enam chozrim la'afaran she'ne'emar v'haya nishar b'tzion v'anotar b'Yerushalayim kadosh ye'amer lo. Ma ze kadosh? Ma ze kadosh? Kadosh ye'amer lo. Et la Gemara nous dit ma kadosh le'olam kayam af hem le'olam kayamim. Kadosh, il y a plein d'explications qui ont été données à que veut dire le mot Kadosh, évidemment. Aval, bedivrei Shel Tana Deve Eliyahu, on nous donne le pérouche officiel de Kadosh. Kadosh le Olam Kayam. C'est-à-dire que Kadosh noten kiyum la Olam. Kadosh, ça veut dire que ça permet de cristalliser dans l'éternité la vie. Ainsi, l'homme qui est Kadosh, eh bien, il arrive tout simplement à rattacher tout à l'éternité. Ze akedusha. Leolam kayam. Quand il y a marqué dans la Torah d'Aberu, d'Aber el koladat bene Israël, va amarta alem kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elohechem, eh bien, mazot omeret, vous devez être un peuple éternel pour dévoiler mon éternité. La reine nous dira le prophète Shmuel, de Givat Shmuel. Il lui dira, Netzach Israël, lo yishaker v'lo yishaber. Le propre du peuple d'Israël, c'est l'éternité. Vous voyez ? Non ?
Non, j'ai dit on suit quand tu as dit de Givat Shmuel.
Oui, mais bon, en vrai, il n'était pas de Givat Shmuel, ce Shmuel-là. Shmuel, il était d'une autre Giva plus proche de Jérusalem. Mais bon, c'est pas très grave. C'est-à-dire, Bekitsur, le Kadosh unoten kiyum tmidi laolam. Et ça, c'est fantastique. Ça, c'est fantastique. Parce que ça veut dire que le judaïsme se range en porte-à-faux complet du christianisme, du bouddhisme, qui voit dans le monde un problème pour atteindre le Créateur. Le judaïsme dit au contraire, c'est utiliser ce monde qui va me permettre d'arriver au Créateur. Kadosh le'olam kayam. C'est pourquoi, eh bien, il y a une différence entre celui qui est en train d'apprendre à être Kadosh. Celui-là, il a besoin de temps en temps de se séparer un peu du monde, mais c'est une période d'incubation. On appelle ça à parouche. Mais la périchoute n'est qu'une étape avant d'arriver à la Kedusha. Je voudrais rappeler ici, justement pour bien que vous compreniez ça, une histoire fantastique, fantastique, qui s'est passée entre deux Talmidei Chachamim qui n'étaient pas officiellement, d'ailleurs officieusement non plus a priori, des Chachmei Kabbalah. Deux Talmidei Chachamim Atsumim, mais qui ne se sont pas mis en avant pour leur implication dans la Torah de la Kabbalah. Ces deux Chachamim, il y en a un qui s'appelait le Rav Ovadia Yosef Zatzal, et l'autre s'appelait le Rav Moshe Botchko Zatzal. Vous allez me dire quel rapport entre le Rav Moshe Botchko, Imkol HaKavod, avec le Rav Ovadia. Eh bien, c'est très simple. Lorsque Rav Moshe a fermé la yeshiva à Montreux, en Suisse, et l'a fait monter à Jérusalem, en Israël, eh bien, ils se sont installés Rechov Jabotinsky, en face du Beth Amidrash et de la synagogue du Rav Ovadia Yosef. Donc, ça veut dire que pendant un temps, ils ont été voisins de palier. Le Rav Ovadia avait fini d'être le Rishon Etzion, donc c'était un personnage extrêmement connu. Et le problème, c'est que voyez-vous, dans la yeshiva du Rav Botchko, il y avait quelques Français de confession séfarade. Or, à l'époque, chez les Botchko, ça priait en Ashkenaz version suisse. Pas comme aujourd'hui où la yeshiva du Rav Shaul David Botchko, qui a été complètement remasterisée en mode séfarade, je crois qu'il reste 3 Ashkenazim dans toute la yeshiva, ben, aujourd'hui tout se passe en séfaradi. Mais à l'époque du Rav Moshe, c'était encore une yeshiva ashkenaz. Et donc, les jeunes Français qui sont arrivés, qui voulaient prier en sfarad, ils ont vite compris qu'en face, c'est vite traversé la route, il y avait le Beth Amidrash, la synagogue du Rav Ovadia, et ça priait en sfarad. Et donc, ils se faufilaient là-bas. Jusqu'à ce que le Rav Moshe ne dévoile la chose. Et il a envoyé une lettre au Rav Ovadia, lui disant qu'il n'était pas d'accord que ses élèves aillent prier chez lui. Maintenant, comprenez bien que Rav Moshe, lui, il connaît. Il sait qui c'est le Rav Ovadia, Rishon Etzion. Mais le Rav Ovadia, je ne pense pas qu'il connaissait le Rav Moshe Bochko. C'est un rabbin de Suisse qui est venu, il a ouvert une yeshiva en Israël. Bon. Donc le Rav Ovadia lui répond qu'il n'est pas d'accord, qu'il pense que c'est tout à fait normal que les Bachourim Sfaradim puissent prier en Sfarad. On connaît le combat du Rav Ovadia pour redorer le blason des Sfaradim. Le Rav Moshe était suisse, donc très très calme. Il a donc écrit une réponse au Rav Ovadia. J'ai vu cette réponse. 14 pages. Avec des mécorotes de toute la Torah. Véchas ou poskim, vachrishonim, vacharonim. Pour lui expliquer pourquoi les élèves ne devaient pas quitter la yeshiva. C'est quoi la fin du film? La fin du film, c'est que le Rav Ovadia a convoqué les élèves qui venaient prier chez lui en leur disant « Vous n'avez plus le droit de venir prier chez moi. C'est votre Yeshiva qui a raison. Et je vous demande d'interférer en ma faveur pour qu'il accepte de me rencontrer. » Évidemment que Rav Moshe il a accepté. Et ils sont rencontrés. Mais le Rav Ovadia a dit, et il a écrit, dans sa lettre qu'il envoie au Rav Moshe pour lui demander de le rencontrer, il lui dit, « Lo yadati, she mimul beiti, yoshev gaon olam talmid chacham, baki bekol haTorah kula. » Quand ils sont rencontrés, il lui a posé plusieurs questions, et parmi les questions, il a dit, « J'ai entendu dire que là-bas en Suisse, dans ta yeshiva, on enseignait aussi des matières qui n'étaient pas Kodesh. » Et le Rav Moshe lui a dit, « Zelo nachon. » Il dit, « Comment ça, Zelo nachon? On m'a dit que vous enseignez les mathématiques. » Il dit, « Oui, c'est vrai. Ah, donc vous enseignez des matières pas Kodesh. Zelo nachon. » Il a dit, « Vous savez, chez nous, on enseigne les mathématiques, la géographie, l'histoire. » Mais chez nous, on n'enseigne que des matières Kodesh. Comment est-ce qu'on dévoile la Kadosh Baruch Hu? Par les mathématiques, par l'histoire, par la géographie. À Kol Kadosh. Eh bien, c'est l'expression de Kadosh, Leolam Kayam. Ok? Donc, voilà, histoire qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Veim Tomar. Maintenant, on revient dans le Talmud. Veim Tomar, Otam Shanim Shatit Akadosh Baruch Hu Lechadesh Bahem Et Olamo, Sheneemar Venizgav Hashem Levado Bayom Ahu. Tzadikim, Mahem Osim, Akadosh Baruch Hu Ose Lahem Knafayim Kenesharim Veshatim Al Pene Amayim. Sheneemar Al Ken Lo Nira Beamir Eretz Ubemotarim Belev Yamim. Ushev. Alors, bon, deux secondes. C'est quoi l'histoire? Là, on nous dit... Oui.
Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur le fait que les matières de Chol, elles sont Kodesh? C'est quelque chose qui me dérange un petit peu parce que je trouve que... On ne peut pas comparer, bien sûr, la Torah. Enfin, la Torah, c'est Kadosh. Les mathématiques, c'est Kadosh. Il y a une différence. On ne peut pas dire quelque chose comme ça. Ça me perturbe un petit peu.
Ça te perturbe un petit peu? Pourquoi?
Parce que quand il dit, écoute, chez toi, on étudie la... Enfin, j'ai entendu qu'on ne fait pas des trucs qui sont Kodesh, qu'on étudie des matières qui ne sont pas Kodesh. Je veux dire, le Rav Ovadia, dans cette histoire, il se pensait bien sûr des autres choses de la Torah. On ne peut pas dire que le Rav Bochko, il compare les mathématiques à la Torah ou la géographie à la Torah. C'est pas juste...
Sheila li elecha. Sheila. Tu n'habites pas loin d'une université. On est d'accord?
Ouais.
Imaginons quelqu'un qui fait un doctorat en étude comparative sur le langage utilisé dans le livre de la Genèse et les textes contemporains de son époque. Donc le mec, il étudie tous les jours Sefer Bereshit. Tagid li, ou l'omet chol au Kodesh? Ou l'omet chol? Parce que tous les versets qu'il étudie, c'est pour les comparer avec les bases des écrits sumériens qu'on a à l'époque pour faire une comparaison et pour à la fin dire de toute façon que la Torah ne vient pas de Moshe. Ah, je te dis déjà, ça sera ça sa conclusion. Zéchol, et pourtant il a étudié les versets de Torah. D'un autre côté, quelqu'un qui étudie Sefer Bereshit pour essayer de comprendre le dévoilement divin, ça s'appelle Kodesh. De la même façon, quelqu'un qui étudie les maths ou la physique pour avoir une bonne note au bac, ça s'appelle Chol. Et quelqu'un qui étudie les maths et la physique pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans la création, comme les frères Bogdanov, les Ilui Nishmatam, eh bien c'est Kodesh.
Jamais entendu cette théorie, je l'ai entendu beaucoup de fois, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit finalement, bah voilà, j'ai étudié la physique, j'ai découvert Akadosh Baruch Hu, j'ai étudié les maths.
Lis le livre des frères Bogdanov.
Ah, t'es sérieux?
Ah, je suis très très sérieux.
Ah,
je me fais le mec. Ah non, d'abord, Bémet, Leilou Inishmatam, hein, mais pour de vrai, c'était des gens très très religieux.
C'est phénoménal leur interview, là. Celle qui circulait là, sur les réseaux. Ah,
j'en ai vu plusieurs, mais enfin bon, moi je peux te dire, j'ai lu leur livre sur Dieu, c'est extraordinaire. Bon, j'ai pas tout compris, hein, je t'avoue, parce que je suis pas un grand mathématicien, mais c'est fantastique. Et c'est des goyim, hein. Donc ça veut dire que à la Khatkama avec Hamad, tu peux y arriver aussi dans le peuple juif. C'est vrai ? Bekitsour, maintenant on revient dans notre histoire donc. Veim Tomar, Otam Shanim Shatid Akadosh Baruch Hu Lechadesh Baem et Olamo. Donc il y a un temps où Akadosh Baruch Hu il va être Mechadesh et Olamo. C'est là. Dieu il va renouveler son monde. Mais moi je croyais que Dieu. Il avait fini. Il avait fini de bosser. Qui vaut Shabbat Mikol Melarto Hashabar Elohim Naasot? Alors, ma Zot Omeret, Dieu, il recommence le monde ou il ne recommence pas le monde? Talouy et Misho Alim. Quand tu demandes au Litaïm, Gon de Vilna, Akadosh Baruch Hu Siem Lechadesh Olamo, Zeu. Quand tu demandes à son élève Rabbi Chaim de Volozhin, à chaque instant, Dieu y met sa volonté qui est le monde. Quand tu demandes au natif de Volozhin, il va te dire que de temps en temps, il reprend la vie de Rabbeinu Saadia Gaon, que de temps en temps, Dieu il est Mechadesh Olam. Et quand tu prends la vie du Baal Shem Tov, tu vois que Dieu il est Mechadesh Olam Kol Rega. Mais la question n'est pas tellement chez Dieu. La question, elle est chez les tzadikim. Qu'est-ce qu'ils font les tzadikim chez Akadosh Baruch Hu Mechadesh Olam? Qu'est-ce que ça veut dire chez Hachem Mechadesh Olam? Bien sûr que ça peut avoir une connotation de création. Mais comme on a dit, la création en elle-même, elle est terminée. Donc c'est quoi que Dieu, il est Mechadesh Olamo de temps en temps? C'est-à-dire qu'il y a de temps en temps des shinouim dans le monde. Je parle de changements qui vont influencer le monde entier. Ça peut être des changements dans la pensée, des changements géographiques énormes, des changements qui vont influencer le monde entier. Et dans ces changements-là, que font les tzadikim? Eh bien, on nous dit, tzadikim ma'em aussi, akadosh baruch hu ose lahem knafaim kanesharim veshatim al pene ha'maim. Sheneemar al ken lo nira b'ma'amir eretz u'bemot harim b'lev yamim. Hachem HaTomar Yishlaim Tsar, peut-être que les tzadikim en question, ça leur fait mal de devoir voler avec leurs ailes. Talmud Lomar, Vekove Hachem, Yachalifu Koach. Yalo Ever Kenesharim, Yerutsu Velo Yigao, Yelechu Velo Yafu. Mazé, c'est quoi cette histoire de tzadikim qui volent avec des ailes d'aigle? Mazé, Kacha, c'est quoi les tzadikim qui volent? Il y a une chanson du Rav Kook, qu'on connaît bien, qui dirait que l'homme, il est capable de s'élever. Parce que Ben Adam, allez les mal à aller. Allez les mal à aller, Ben Adam. Yesh becha kanfe ruach. Donc l'homme est censé être capable de s'élever. Ah, hein. Mais quelle partie dans l'homme est capable de nous élever? Avec quelle partie l'homme est capable de l'hydromem? Au-dessus de l'eau. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les amis, posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce que c'est que l'eau? Oui, on est très philosophique ce soir. Qu'est-ce que c'est l'eau, les amis? Comment on dit en hébreu l'eau? Maïm, Femod, Ulpan Rama Aleph. Maintenant, on va faire Ulpan Rama Bet. Est-ce que Maïm, c'est un singulier ou un pluriel? C'est un pluriel. C'est donc le pluriel de quel mot? Rama Gimel, attention. C'est le pluriel de quel mot? Bah Manu, tu sais pas? Rama Gimel? Yamim? Mais non, mais quel rapport, ouais, mais c'est. Eh, hey, je t'ai pas appris ça! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maïm, c'est un pluriel. Donc c'est le pluriel de quel mot?
Mei.
Mei? Pourquoi t'as mis le yud dans le singulier?
Je sais pas, j'ai oublié.
Le pluriel, c'est yud même, Ron?
Ouais.
Donc ça veut pas. Donc c'est quoi?
Même.
Merci, Jacques, merci. C'est pas compliqué. Il y a des gens qui ont été à l'Ulpan il y a très 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 longtemps. Et ils font genre, ils parlent hébreu et tout, intégré dans la société israélienne et tout. Ma. Ma. Maïm, c'est le pluriel de ma. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, ma? Quoi? Nahon, ben, ça veut dire quoi de l'eau en vrai? L'eau, vous savez bien que ça vient du latin. C'est à quoi? Ah tiens, et puis en anglais on dira water, et en allemand on dira Wasser. C'est bizarre ça, comme si on savait dans les langues que l'eau c'est la base du questionnement. Et lorsque la Gemara nous dit ici que le tzaddik il peut être mitromem, mais à la maïm, donc il est capable de s'élever au-dessus des questions. Grâce à quoi il est capable de s'élever au-dessus du questionnement? Grâce à son esprit, à Sechel. C'est l'intelligence de l'homme qui lui permet de s'élever. De s'élever au-dessus, non seulement de l'eau, mais de ce qui va le retenir à la Ritzpa, Baola Mazé, sur terre. Si je vous racontais une petite histoire, vous me dites à quel moment vous la connaissez? D'accord? Il était une fois un grand roi. Ce grand roi s'appelait Minos. Il était le frère aîné de Plos. Et Minos, il avait un grand problème. C'est parce qu'il avait sous sa garde une bête terrible qu'on appelait le Minotaure. Une bête immonde avec un corps d'homme et une tête de taureau. Alors, pour que le Minotaure arrête de manger toutes les jeunes vierges effarouchées, eh bien, il a demandé à Dédale et son fils Icare de lui créer un labyrinthe. Ils ont donc créé un labyrinthe pour y coincer à l'intérieur le Minotaure. Problème, c'est qu'ils ont tellement bien fait leur boulot qu'ils n'ont pas retrouvé la sortie. Ils étaient donc piégés dans leur propre dédale. Alors, ils ont tout d'un coup eu l'idée, en regardant vers le ciel, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas fait de toit à ce labyrinthe. Ils se sont donc mis de la cire sur le corps. Ils ont collé des plumes sur la cire. Et ils se sont mis à s'élever. Et ils ont réussi à sortir du labyrinthe. Icare a tellement kiffé de s'élever dans le ciel qu'il a commencé à aller de plus en plus haut. Et son père Dédale, qui avait un peu plus de sagesse, lui a dit « Mais arrête, ne va pas si près du soleil !» À ce moment-là, Apollon, ne voulant pas que Icare se rapproche trop de lui, a fait fondre la cire, les plumes sont tombées et Icare s'est effondré dans l'océan et est mort. Tragédie grecque. Tov, y a fait, si pour y a fait. Omer à Ramchal, nous dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, Bemesilat Yesharim, que notre monde, c'est comme le labyrinthe de Dédale. Et que le Minotaure n'est autre que le Yetzer Hara, un nefesh abéhémite de l'homme. Et l'homme est capable, grâce à son sechel, à s'élever, s'élever, s'élever. Il est capable de s'élever au-delà des contraintes de ce monde. Ah oui, dans la mythologie grecque, quand tu t'élèves trop, tu tombes. Parce que Icare a oublié que les Grecs pensent que les dieux sont en compétition avec l'homme. Avec le mythe de Prométhée et tout ça. Mais chez nous, Dieu n'est pas en compétition avec nous. Il veut qu'on s'élève vers lui. Vers la vie étreinte, Elaï. Et donc, la version juive de cette histoire-là, c'est qu'on s'élève et qu'on ne tombe pas. Eh bien, c'est exactement ici ce que nous dit la Gemara. Que les tzadikim, ils montent, ils montent, ils montent, et ils ne tombent pas. Ben, c'est vrai. Et Pachout, on ne tombe pas. Zakol. Et ça, c'est l'idéal. Parce que le but du jeu, c'est quoi ? Eh bien, c'est de pouvoir être en contact avec Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement ça le but. Mais la reine, au final, on dit Vekove Hashem Yachalifu Koach, Ya'alu Ever Kenesharim, Yarutsu Velo Yigau, Yelechu Velo Yafu. Tzadikim en laim menucha, lo ba'olam hazeh velo ba'olam haba. Alors, bon, okay, on a compris. On a compris, les tzadikim, ils s'élèvent. Et en fait, triat ametim des tzadikim, c'est de permettre à avoir une alia matmedet qui ne s'arrête jamais. Là, on te dit, ok, c'est d'ailleurs une alia matmedet. Donc, maintenant qu'on dit ça, ok, c'est d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple? Le Talmud, il dit, j'ai compris l'idée, mais j'aimerais bien avoir un exemple. Et donc, on nous dit, Venalif mimetim she'echeya yecheskel. Peut-être qu'on pourrait apprendre de gens qui ont déjà vécu triat ametim. Ça peut nous aider à connaître. Or, on sait qu'il y a des gens qui ont vécu déjà triat ametim. C'est les metim qui a ressuscité Yecheskel à Navi, au chapitre 37 de Yecheskel. Metim she'echeya yecheskel. On nous dit she'chazru vemetu, kach tzadikim she'atid l'achayot erzeru. L'Afaram, c'est Rashi qui ramène l'explication de tout à l'heure, c'est vrai qu'ils vont revenir, mais ils vont... Alors, c'est quoi cette histoire ? Savar la kemanda amar be'emet mashalaya. C'est un mashal, l'histoire de Metim Shechaya Yecheskel. Aval, c'est pas la vie qui est amenée par Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il va amener la Shita de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda, c'est l'élève de Rabbi Akiva, qui lui-même est l'élève de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, Metim Shechaya Yecheskel, Amdu al Raglehem, Vamru Shira, Vametu. Ma Shira Amru, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hashem Memit Betzedek, ou Mechaye Berachamim. Voilà ce qu'ils ont dit. Ça veut dire que normalement on doit mourir. La triat ametim, c'est rachamim. Aval Rabbi Yoshua Omer, Shira zo amru, Hashem memit umechaye, morit sheol vayal. C'est-à-dire que non, Rabbi Yoshua lui dit non. Puisque Dieu il a fait mourir, il est obligé de les ressusciter. De la même façon que au morit sheol vayal. C'est-à-dire que, est-ce que la vie, elle va vers la destruction ou elle va vers la construction? Et ça, on avait vu au tout début de notre étude sur Triat Ametim. L'idéal du judaïsme, et ici, le psak de Rabbi Yehuda, nous dit Emet Mashalaya. On ne peut pas apprendre des métimes de Yechezkel comme étant ce qui va arriver. Mashalaya. Amar le Rabbi Nechemia, im Emet, lama Mashal. Tu me dis Emet Mashalaya. Veim Mashal, lama Emet. Et là, Behemet Mashalaya. C'est-à-dire, c'est Behemet que c'était un Mashal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Behemet, tu ne vas pas apprendre comment va se passer Triat HaMetim des Metim de Yechezkel. Aval Behemet, tu vas apprendre des Metim de Yechezkel. Pas comment ça va se passer, mais pourquoi on revient. On revient pour chanter la chanson de l'éternité de la vie. Après, comment ça va se passer? On verra. C'est-à-dire Rabbi Eliezer beno shel Rabbi Yossi Agelili אומר, מתים שחי יחזקאל עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים ובנות. Pas mal. Ils sont partis de Babylone, ils sont montés en Israël, ils ont eu des enfants. ו? עמד רבי יהודה בן בטרה. Au moment où Rabbi Eliezer beno shel Rabbi Yossi l'a dit ça, עמד רבי יהודה בן בטרה על רגליו ואמר, il s'est levé, il a dit, Anim ibne benem. Moi, je suis un de leurs descendants. Babam. Ve'alalu tefilin she'iniach li avi abba me'em. Et les tefilin que j'ai reçus à ma bar mitzvah de mon père, de mon grand-père, il vient d'eux. Psh. Il a fait. Uman ninhum etim she'echa yechezkel. Alors, c'est qui? Tu me dis maintenant que c'est des vrais. Alors, c'est qui? Ben, je vais te dire. אמר רב, אלו בני אפרים שמנו לקץ וטעו. וואו, c'est qui ces gens-là? En fait, on parle de qui? On parle de ces gens qui ont voulu monter en Eretz Israël, mais qui se sont plantés dans leur calcul, בני אפרים, et qui sont morts avant la sortie d'Égypte. Eh bien, on te dit, שנאמר, ובני אפרים שוטלח וברת בנו ותחת בנו ואל עדה, בנו ותחת בנו וזבת בנו ושוטלח בנו ועזר ואלעד והרגום אנשי גת. בסדר? והרגום אנשי גת הנולדים בארץ. זה סכי המחיר לנו דברי הימים. הוא כתיב ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבואו אחיו לנחמו. דונק לבני אפרים סום סורטי דשיפט אבן לר איזון סומור. למתים דייחזקאל זה אה. Et ils sont devenus qui finalement? Olé Bavel. Ceux qui sont venus de Babylone et qui ont permis de reconstruire la génération qui va revenir en Israël, reconstruire le deuxième Betamigdash. Donc en fait, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler tout simplement de l'idéal de la résurrection. Et c'est quoi cet idéal de résurrection? C'est Am Israël qui retrouve sa place. Ou Shmuel Amar, Elo Bene Adam. שכפרו בתחיית המתים, שנאמר ויאמר אליי בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל, המה, הנה אומרים, יבשו עצמותינו, ועבדה תקוותינו, ונגזרנו לנו, סליחה. Ça, c'est dans le פסוק de יחזקאל, que les מתים eux-mêmes, ils disent, on n'a plus d'espoir. Donc, il y a des gens qui sont pessimistes dans la vie, qui n'ont pas d'espoir. Il faut savoir que quelqu'un qui est pessimiste, ça fait que Meot s'il est juif. Tu ne peux pas être juif et être pessimiste. Ce n'est pas possible. C'est Klal Gadol.
On avait Rav Cherki ce matin qui disait quelqu'un qui est optimiste, c'est quelqu'un qui croit à la résurrection des morts sans savoir.
Ben voilà. Ben c'est ça, exactement. Iné, où est-ce qu'il a dit ça?
Je ne sais pas, tu sais, les petites vidéos.
Ah, les petites vidéos du matin. D'accord, d'accord. אז נכון, זה זה, זה כבר כמו זה. רבי ירמיה בר אבא אמר, אלו בני אדם שאין בהם לחלוכית של מצווה, שנאמר, עצמות היבשות שימעו דבר השם. ils ont pas du tout de mitzvah. ils ont rien. מה זאת אומרת? ça veut dire que il y a vraiment pas de désespoir. même quelqu'un qui n'a rien, officiellement, il a quand même officieusement. et il revient quand même. רבי יצחק נפחא אמר, אלו בני אדם שחיפו שחיפו כן את היכל כולו שקצים ורמסים, שנאמר ואבוא ואראה והנה כל תבנית רמס ובהמה, שקץ וכל גילולי בית ישראל, מחוקה על הקיר סביב, וכתיב אתם והבירני עליהם סביב סביב. מה זה הסיפור הזה? Qu'il y a des gens, qu'on nous dit dans Ezekiel, qu'il y a des gens qui ont rempli le Beth Amikdash de shkatsim, de choses impures. Mazé. C'est à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du premier Beth Amikdash, avant la destruction du Beth Amikdash. On a des gens qui sont malés à Vodazara et qui vont au Beth Amikdash l'après-midi. Et bien on nous dit, c'est ces gens-là qui reviennent avec Yeheskel. Les métimes de Yeheskel, c'est aussi ces gens-là. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'on est en train de prendre tout l'âme Israël, tous ceux qui ont fauté, et on les ramène quand même. On laisse personne derrière. La reine nous dit Rabbi Yochanan Amar, Elu metim shebebikat dura. Maze, Amar Rabbi Yochanan minar eshel adrabat bikat dura. שבשעת שהגלה נבוכדנצר הרשע את ישראל, היו בהם בחורים שהיו מגנים את החמה ויופיים, והיו כסדיות רואות אותם ושופעות זוות. אמרו לבעליהם ובעליהם למלך, ציווה המלך והרגום, ועדיין היו שופעות זוות, ציווה המלך ורמסום, ואלו הם העצמות שחיי יחזקאל. שור, דיור. Il nous dit quoi, Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, je vous le rappelle, qui était quelqu'un pour qui la beauté était fondamentale. Il dit que c'était des gens qui étaient d'une beauté extraordinaire. Que lorsqu'ils ont été emmenés en exil par Nebuchadnezzar, toutes les Babyloniennes, elles ont dit « Waouh ! C'est quoi ces beaux gosses ?» Et les maris se sont plaints de Nebuchadnezzar, qui les a fait tuer. Mais ça ne suffisait pas. Même sur la tombe, les Babyloniennes venaient voir et disaient « Ah, beaux gosses !» Alors, il a fait ordonner de piétiner les ossements. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cette beauté que Rabbi Yochanan, il rappelle, c'est la beauté de l'époque de la Géoula, la beauté du Beth Amikdash. Donc, c'est quoi les métimes qui reviennent chez Yeheskel? C'est la résurrection de la grandeur du peuple juif. Ok? C'est donc pas anodin que juste après la névoie de Triat HaMetim de Yeheskel, il y a la névoie du Beth Amikdash, du troisième Beth Amikdash. Vous savez, dame? En fait, vous aurez compris que tout ce qu'on était en train d'essayer d'expliquer, c'est que l'idéal de Triat HaMetim est d'amener un idéal de vie connecté à l'éternité. Maintenant, tout ça, c'est bien, mais tout ça semble partir quelque part en cacahuète quand Am Israël part en exil. Quelle est la condition du peuple juif lorsqu'on part en exil? Eh bien, les amis, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. À bientôt.
C'est dur, là, on reste sur notre fin.
On a vu quel était l'idéal